Mais je me suis dit, on va aller dans le thème de Noël. On va aller avec cette idée-là de notre sauveur qui s'est incarné. Si vous voyez que y a quoi qui se promène dans ma bouche, là, j'ai un haze là, pour essayer de m'empêcher de tousser. Il semblerait qu'il y avait un pasteur qui avait cette technique-là. Hein, quand que la pastille était fondue, c'était la fin du message. Fait qu'on va voir. Elle est grosse ce soir, ma pastille. Là. Non, ça va être pas si mal. Mais je voulais vous proposer quelque chose qui allait aller, bon, qui allait nous, du moins porter nos pensées vers ce thème-là, l'incarnation de notre Sauveur, de notre Seigneur. Vous avez peut-être lu le titre dans le bulletin. Des noms qui en disent long. Des noms qui en disent long. Tu sais, dans notre société, on a perdu un peu la saveur des noms qui signifient quelque chose. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez la signification de vos noms. Quelle est l'étymologie de votre nom, d'où ça vient? Est-ce que vous le savez? Hugues, tu le sais, ça veut dire quoi? Ouais, me semble. Hypocrite. Angela? Messagère, hein? Ah, c'est ça, Angela. Angela, c'est probablement que ça vient d'ange. Oui, Frédéric? C'est vrai? Frédéric, bon, j'en ai cherché quelques-uns pour vous, des noms que j'essaie de penser à ceux qui allaient être là ce soir, puis j'ai trouvé quelques noms. Mais juste un exemple facile, hein? On a les noms que l'on a aujourd'hui sont des noms qui ont plus une simple appellation, qu'on perd le sens de ce qu'il y a derrière. Par exemple, Philippe, je pense pas qu'il y ait un Philippe ici ce soir, mais Philippe, on pourrait traduire celui qui aime les chevaux ou l'ami des chevaux, par exemple. Je pensais à René. René, je pense que c'est assez facile de trouver d'où est l'étymologie de René. Et c'est bien parce qu'on a même la compréhension française de ce que c'est de René. Alors, c'est un beau nom. Un beau nom, René. Ta mère a bien choisi. c'est ça. J'ai cherché Suzanne, qui a une origine en hébreu, qui pourrait se traduire par lys. J'ai cherché, les marquis sont pas là, mais je sais pas si une autre... Comment? Ouais, Catherine, je pensais à Catherine Marquis, mais elle n'est pas là. Mais j'ai cherché Catherine, qui a probablement son origine dans le grec de kataros, qui pourrait être traduit par pur. On a, je pensais à des Dany ou Daniel aussi. Dany Asselin. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il veut dire ton nom? Non? Exactement. Exactement. Daniel, Dany, qui est un diminutif. Ben, Dan, en hébreu, qui veut dire juge. Elle, qui est pour Dieu. Alors, Dieu est mon juge dans le cas de Daniel. Dany, qui pourrait être plus traduit par juge. J'ai cherché Claude aussi. Claude, qu'on pourrait traduire de son origine latine, boiteux. Bon, ben, je suis désolé, Claude, j'aurais voulu te faire une fleur, mais c'est pas ça. C'est pas ça pour toi ce soir. J'ai cherché Lucie ou Lucille aussi, des fois les noms qui se regroupent aussi, qui pourraient être traduits par lumière, luxe, qui pourrait y avoir son origine. Le dernier que j'ai cherché était André, qui vient d'un mot grec andros, qui a été traduit souvent aussi par viril ou homme. Bon. J'ai pas cherché une Normande. Non, qui vient probablement de Normand, mais je sais pas. J'ai pas cherché. C'est ça. Alors, je m'en souviens plus. Je sais pas, j'allais chercher. C'est vrai? Aimé de Dieu? Bon, hein, c'est bien. C'est bien. Mais non, je t'avais pas cherché ou peut-être je t'avais oublié. Mais on a des noms qui. On a perdu dans un sens un peu la saveur de nos propres noms. Mais dans un sens, les noms que Dieu a donnés, par exemple, à Abraham, qui change son nom, c'est pour donner un sens particulier quand il l'appelle Abraham, qui devient maintenant père d'une multitude. Et Abraham, qui était sans enfant, qui tout à coup se fait appeler père d'une multitude, c'est un peu ironique, parce qu'il était aussi avancé en âge, comme vous connaissez l'histoire. Jacob, qui a aussi changé de nom par Israël. Les noms ont une signification, ils ont une étymologie, mais encore plus, la portée est encore plus grande quand que ces noms-là appartiennent à notre Dieu, quand que ces noms-là appartiennent à notre Sauveur, puisque les noms révèlent qui est Dieu. Et on pourrait trouver plusieurs textes dans les Écritures ce soir, où ce que je veux qu'on se dirige, c'est les noms attribués particulièrement à Jésus. je dis non. On pourrait dire aussi des noms, mais aussi des titres qu'on pourrait donner aussi à Jésus, ou même des images aussi qui sont données à Jésus. On va voir ça un petit peu plus avec le temps. Je vais juste vous citer psaume. J'en ai pris un presque au hasard, psaume, parce que je savais que dans les psaumes, on en trouve un souvent. Je veux pas nécessairement qu'on lise ce soir dans les psaumes, mais je vais juste vous donner une citation que j'ai trouvée presque au hasard. « Répands ta fureur sur les nations, psaume 79, 6 à 9, sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom. Car on a dévoré Jacob et ravagé sa demeure. Ne te souviens plus de nos iniquités passées, que tes compassions viennent... Que tes compassions viennent en hâte au-devant de nous, car nous sommes bien malheureux. Secours-nous, Dieu, de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. » À l'intérieur même de quelques versets, trois fois, on réfère au nom de Dieu. À cause de ton nom, à cause de la gloire de ton nom. Jérémie 10, 6, « Nul n'est semblable à toi, ô Éternel, tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance. » Le nom de Dieu, les noms que l'on trouve, et là, il y en aurait plein qu'on pourrait trouver si on utilise les noms de Dieu au sens plus large, incluant l'Ancien Testament, on en trouverait plein. Mais on va regarder, comme je disais tantôt, plus ceux qui sont attribués à Jésus. Et peut-être qu'on n'apprendra pas nécessairement quelque chose de nouveau avec un nom que vous avez jamais entendu qui est donné à Jésus. Je pense qu'on les connaît. Mais l'idée, le point ce soir que je pense que j'aimerais qu'on se dirige, c'est de se rafraîchir la mémoire, de disposer nos cœurs tranquillement, nos têtes, à réfléchir à la personne de Jésus, à penser à ce qu'il est. Si Jésus, il dit, par exemple, on l'appelle le Messie, mais c'est pas un nom qu'on va voir ce soir, mais pourquoi est-ce qu'il est le Messie? Pourquoi est-ce qu'on peut commencer à réfléchir à ça, puis ce nom-là qu'on lui donne va le définir, va le décrire? Alors, je vous lance la question, si vous pouvez me nommer des noms qui sont donnés particulièrement à Jésus. Je vais vous donner des exemples. Je vais vous donner tous les exemples qui vous viennent spontanément dans la tête, fait que ça va vous faire travailler un petit peu plus. Par exemple, des noms qui sont donnés, Jésus, Emmanuel, on a dans Ésaïe, c'est des textes qu'on va regarder aussi, conseiller, Dieu puissant, admirable, Père éternel, Prince de la paix, l'alpha et l'oméga. Donnez-moi d'autres exemples de titres qui viennent des titres, des noms qui sont attribués particulièrement à Jésus, ou même des images. Jésus dit « Je suis la lumière du monde », le lion de Juda. Un médiateur, exactement. Qu'est-ce que tu disais, Karen? Le bon berger. Je suis. Alors, dans Jean, régulièrement, il est le chemin, le rocher. Rocher, oui, rocher. Il y a rocher de scandale aussi, exactement. Oui, Hugues? Tu regardes la petite publicité dans le bulletin, hein? C'est ça. C'est ça, il y a des noms. Oui, Karen? La porte des brebis. Oui, Karen? Oui, c'est ça, exactement. On va regarder un petit peu plus ça tantôt en détail, justement, ces deux noms-là. Il y en a plusieurs. J'ai sorti une liste, je ne l'ai pas comptée, qui est des noms et des titres attribués à Jésus. Vous en avez nommé plusieurs. Est-ce que tu as dit quelque chose? Roi des rois, c'est ça. Alors, lumière, maître, malédiction, médiateur, messie, nazaréen, notre paix, notre Pâque, flambeau, fils de Dieu, fidèle, étoile du matin, précurseur, prémisse, premier-né. Jésus, il y a plein de titres et de noms qui lui sont donnés qui vont nous amener à réfléchir puis à décrire c'est qui il est. Qui il est, notre sauveur. J'aimerais qu'on fasse un mot de prière et après ça, on va regarder un premier texte dans Ésaïe. Mais avant de tourner, on va prier. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer. T'es un grand Dieu. T'es notre Dieu, t'es notre papa et on est vraiment reconnaissant que de pouvoir avoir cette relation-là avec toi. Dieu, on veut apprendre à te connaître. On veut t'apprendre à te connaître par ton nom. On veut savoir qui tu es. On veut que tu te révèles à nous. Ton désir, Dieu, c'est qu'on te connaisse. Tu nous as donné cette vie éternelle, justement, qui est de te connaître et on veut ouvrir les Écritures et on te prie que tu illumines nos pensées, que tu diriges, Seigneur, ta parole pour qu'elle touche nos vies, pour qu'on puisse justement t'honorer, te glorifier dans nos vies, par nos bouches et par notre connaissance aussi que l'on a de toi. Dans le nom de ton Fils Jésus, qu'on te prie ces choses. Amen. Je t'invite à tourner avec moi dans Ésaïe, chapitre 7. J'aimerais qu'on réfléchisse, bon, d'une façon peut-être intellectuelle, à comprendre pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça, pourquoi est-ce que c'est ça. Puis dans un deuxième temps, j'aimerais qu'on discute ensemble, j'aimerais dans un deuxième temps, une fois qu'on a analysé les mots, puis qu'est-ce que ça dit, qu'on réfléchisse à qu'est-ce que ça change dans notre vie, dans notre compréhension, d'une façon personnelle dans ma relation avec Dieu, le fait qu'il soit, par exemple, Emmanuel, ou qu'il soit conseiller au Dieu puissant, et qu'on aille vers les applications personnelles de... Qu'est-ce qu'on comprend de sa personne, de ce qu'il est? Ésaïe 7, versets 10 à 14. Un volontaire qui voudrait lire ça. En passant, j'ai essayé d'être sage et je n'ai pas trop pris de noms, alors j'en ai pris seulement 13 pour ce soir. Je pense pas qu'on va voir les 13. On va en voir quelques-uns. Et puis peut-être, sinon, on continuera une autre fois aussi. Un volontaire, Ésaïe 7, Normande, les versets 10 à 14. OK, on va arrêter là pour l'instant. On fera pas nécessairement tout le contexte de Akaz et puis de Ésaïe qui lui dit, ben demande un signe et puis bon, t'en demandes pas, on va t'en donner un. Et à qui est donné le signe que la Vierge enfantera? À qui est donné le signe? Au peuple juif. Et on pourrait spécifier aussi encore plus. À la maison de David. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, c'est la maison de David, d'une façon plus claire? La descendance, la lignée de David, et on s'adresse à cette idée de monarchie. L'idée quand on parle de maison de David, on va relier beaucoup, justement, à cette idée de monarchie, dont Akaz était aussi un roi. Et est-ce trop peu pourvu de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? Alors voici le signe que Dieu lui-même vous donne. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. La question peut paraître un peu simpliste. Je m'attends que vous connaissiez la réponse. Mais pourquoi lui donner le nom d'Emmanuel? Quel était ce signe-là qui devait venir? On a cette grande bénédiction que de se retrouver de l'autre côté de ce signe-là, je peux dire ça comme ça. Mais quel était ce signe-là et qu'est-ce qu'il en faisait? Pourquoi est-ce qu'on donnait ce nom-là d'Emmanuel à cet enfant-là qui naissait? Oui. Dieu avec nous. Qu'est-ce qui était spécial dans ce signe-là qui, dans un sens, n'a jamais été donné? Qu'est-ce que ce nom-là, pour quelqu'un qui entendait ça, Emmanuel, Dieu avec nous? Ouais. Alors d'avoir cette proximité-là aussi grande, d'avoir Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Et évidemment, on a la suite des Écritures qui nous éclaire beaucoup de cette incarnation-là de Dieu qui est venu, de la Vierge qui a enfanté. On a cet accomplissement-là de la prophétie qui a été faite par Marie. Et l'idée de Dieu avec nous, à quel moment ça s'est passé, à quel moment ça se passe, à quel moment ça va se passer, Dieu avec nous? À la naissance, OK, Dieu avec nous. Mais quoi d'autre aussi? Est-ce que ça s'arrête uniquement au moment de l'incarnation de Jésus, au moment où le titre que l'on donne à Jésus, qu'on l'appelle Emmanuel, est-ce que ça va plus loin que juste son incarnation? Comprenez-vous ma question? Ben, vas-y, Julie, après ça, Normand. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce que tu citais, René? OK. Qu'est-ce que tu disais, Normand? Oui. Oh. OK, il y a eu la évidemment l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, et on est sous cette période-là aussi où ce qu'on a l'esprit qui habite en nous. Mais dans la personne de Jésus, on lui a donné le nom d'Emmanuel, évidemment dans un sens premier à cause de son incarnation, Dieu avec nous. Mais Jésus, il est remonté, puis je suis avec vous encore tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et est-ce que Jésus va revenir un jour parmi nous dans un sens physique? Oui. Dieu avec nous, on va avoir cette proximité-là dans un futur où ce que Dieu avec nous sur la terre, Jésus, qui va régner pendant 1000 ans, qui sera avec nous et qu'on va passer aussi l'éternité avec lui, c'est quelque chose, comme tu dis, Dani, qui est particulier même pour un juif que d'avoir cette proximité-là aussi grande de Dieu qui est avec nous, que Dieu qui est parmi nous et qui s'accomplit évidemment dans son sens premier avec l'incarnation. Allez dans Matthieu 1 pour faire la suite. À partir du verset 18 à 23. Tantôt, Karel, tu disais Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus, Dieu qui sauve, ou Yahvé est salut. On a justement la naissance de Jésus au moment de cet accomplissement-là de la prophétie. Ben l'ange qui vient, qui vient et puis qui va justement révéler le nom que cet enfant-là va porter. Quelqu'un qui voudrait lire Matthieu 1, 18 à 23? Paul? OK. Okay. On a cet accomplissement-là qu'on voit dans Matthieu, de l'ange qui vient avertir comment ça va se passer. Voici la parole qui avait été annoncée par le prophète s'accomplit. La Vierge qui est devenue enceinte va avoir ce fils-là, puis on lui donnera le nom d'Emmanuel. Comment l'ange a dit qu'on va l'appeler? Jésus. Et pourquoi est-ce que le nom de Jésus accomplit la prophétie d'Emmanuel? Ben Dieu qui vient nous sauver, de Dieu qui vient nous rencontrer, Dieu Emmanuel qui est là, qui est Dieu parmi nous, ben vient nous rencontrer, vient nous sauver aussi. On vient de voir deux noms déjà de Jésus, Emmanuel et Jésus. Dieu parmi nous, Dieu qui sauve. Quelle compréhension ou qu'est-ce que ça va changer dans ma relation, ou qu'est-ce que ça va animer, je peux dire, dans ma relation avec Dieu, cette compréhension-là de Emmanuel, cette compréhension-là de Jésus, qu'est-ce que ces noms-là révèlent pour moi dans ma relation avec lui? Comprenez-vous ma question? C'est un Dieu qui est proche, Dieu qui est près de nous. Qu'est-ce que ça m'encourage aussi dans ma relation avec lui? Le fait qu'il s'appelle Emmanuel, qu'il s'appelle Jésus. Ouais. Je suis pas seul. Qu'est-ce que ça révèle aussi sur le caractère de Dieu? Oui, Carole. Ouais. Ouais. Nous garantit certainement dans sa fidélité, dans sa présence. Quoi d'autre aussi? Qu'est-ce que ça révèle sur le caractère de Dieu? Comment? Ouais. C'est un Dieu qui veut une relation. Dieu parmi nous, et il veut une relation aussi, et pour ça, il devait nous sauver. Jésus. Jésus nous sauve. Jésus est parmi nous. Il a voulu avoir une relation, c'est ce que ça révèle du caractère de Dieu. On a cette espérance-là, cette assurance que jamais il va nous quitter, qu'il a dans son caractère ce désir que d'être parmi nous, que d'être près de nous, que de nous sauver. Et ça, c'est l'image de notre Sauveur, c'est l'image de notre Dieu, à quoi il ressemble. On va revenir dans Ésaïe. J'aurais dû vous dire tantôt de garder un doigt. Ésaïe, puis on va aller au chapitre 9. Et la prochaine fois, vous garderez un doigt dans Ésaïe, parce qu'après ça, on va y revenir après, une autre fois, avec Ésaïe 53, parce qu'on va lire quelques versets. Ésaïe 9, les versets 5 et 6. Est-ce qu'il y a un volontaire qui voudrait lire les deux versets? Oui, Gaétan. Et verset 6. OK, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera comment? Premièrement, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est des beaux noms qui sont donnés à Jésus. Que nous révèlent ces noms sur la personne de Jésus? Qu'est-ce que ça nous révèle de sa personne? Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Qu'est-ce que ça révèle de Dieu? Sa grandeur. Pourquoi tu dis sa grandeur? Ouais. Ouais. Certainement que c'est rempli d'honneur, ces titres-là. Quoi d'autre aussi? Qu'est-ce que ça nous révèle sur Dieu, sur notre Sauveur? On peut se reposer sur lui. OK. Okay. Oui, il y avait Gilet, après ça, Mme Richard. Ouais. Alors, c'est quelque chose de concret. C'est une personne, c'est pas juste une idée abstraite, mais quelque chose de concret. Madame Richard, après ça, René. Il est comment? Oui, certainement. Et Dieu puissant. Alors, oui. Alors, il peut tout faire. Oui, certainement. Oui, René. Oui. 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 Alors, on a ce Dieu-là, ce Sauveur-là, qui est un conseiller, qui est admirable aussi, qui est Dieu puissant, qui est Père éternel. Et on parle « La domination reposera sur son épaule », verset 6, « Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David ». C'est des titres, des noms qui sont donnés aussi dans un contexte relié à cette idée de monarchie, à cette idée de roi. Jésus, qui a des titres de roi associés à sa monarchie, de « admirable », « conseiller », Père éternel, son trône sera sans fin. Il y a uniquement Dieu qui peut être qualifié d'éternel. Et c'est uniquement lui qui peut être Père éternel. Prince de la paix, un roi qui va établir la paix. Où ce que même les animaux qu'on voit même dans Ésaïe, dans cette portion-là du temps, où ce qu'on va voir le lion et l'agneau et les animaux qui vont être en paix entre eux. Alors, on a un prince de la paix et tout ça est relié à son royaume. Mais évidemment, ça qualifie sa personne. Allez vite dans Ésaïe 11. Regardez justement la continuité de cette idée-là, des titres qui sont donnés, des noms qui sont donnés à Jésus et aussi associés à son royaume. Verset 1, chapitre 11. « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. » C'est qui Isaïe? C'est le père de David. Alors, on est dans la même lignée. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres. Il fera mourir le méchant. Alors, c'est un roi vraiment particulier. On pourrait continuer jusqu'au verset 10, mais on parle de ce sauveur, de Jésus, de Emmanuel parmi nous, qui aura ce rôle-là aussi de roi, qui règne aussi présentement, mais qu'il est admirable, qu'il est conseiller, Dieu puissant. J'essaie de voir c'est où je vais couper, là. Juste une petite parenthèse. J'ai eu une fois une argumentation avec quelqu'un qui est venu frapper chez nous, qui était d'une religion autre. Témoin de Jéhovah. Et puis là, je dis, tu sais, Jésus, c'est Dieu. Tu peux pas échapper ça. Jésus, c'est Dieu. Si tu dis, et là, on verra un petit peu si on a le temps tantôt, cette idée-là de Alpha, Omega, Tout-Puissant, commencement, premier-né, eux, ils accrochent beaucoup sur ça. Et ils vont dire, non, 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 Jésus, il n'est pas Tout-Puissant. Ils vont dire, Jésus, c'est Dieu puissant. C'est un peu moins. Mais les témoins de Jéhovah vont échapper malheureusement à cette idée-là, de cette vérité-là tellement importante que Jésus est Dieu. Jésus, c'est Dieu. Certainement qu'il a le titre de Dieu puissant, mais on verra un peu plus tard qu'il y a le titre aussi de Dieu tout-puissant. Et il est tout-puissant. Et si vous regardez Ésaïe chapitre 10, verset 21, on parle du Père. Pour les témoins de Jéhovah, eux autres même comprennent qu'on parle du Père. Et là, regardez le titre qui est donné au Père. Je fais juste une petite argumentation, on ferme la boucle rapidement. Le reste reviendra, le reste de Jacob, ô Dieu puissant. On parle à l'Éternel, puis là, on l'appelle Dieu puissant. Puis on a donné à Jésus ce titre-là de Dieu puissant. Alors, pas parce qu'on dit qu'il est Dieu puissant que c'est moins que ce que le Père est aussi. Alors, le Père aussi, on l'appelle Dieu puissant. On va l'appeler le Père Dieu Tout-Puissant et on va appeler Jésus aussi le Tout-Puissant. Alors, on a un Sauveur qui est grand. Quand on se souvient, et je sais qu'on a déjà cette compréhension-là, cette connaissance-là, mais on va se rappeler quand même, même quand que Jésus est né, enfant comme il était, voici un enfant nous est né. Un enfant est né, un bébé est né, et quel titre, quel nom est-ce qu'il porte? Admirable, conseiller, Père éternel, prince de la paix. Alors, c'est beaucoup plus qu'un enfant. C'est Dieu avec nous qui est grand et qui est venu nous rencontrer. Je vous invite à revenir avec moi dans le Nouveau Testament, dans Jean 1, et on va fermer la boucle avec ça pour ce soir. Je pense qu'on va fermer la boucle avec ça, puis peut-être une prochaine fois, on rouvrira la boucle avec la même idée. On a dans les évangiles, on a 4 évangiles, hein, je vous apprends rien là. On a 4 évangiles, et je pense que c'est pas un hasard. Évidemment, c'est plus que je pense. Je suis convaincu que c'est pas un hasard. Dieu a voulu nous présenter la personne de Jésus de façon différente. Jean a voulu nous présenter certainement cette idée-là de Dieu qui est descendu sur la terre. Hein? Quand on commence avec Jean 1, mais Dieu, la parole qui était Dieu, qui était avec Dieu, elle était Dieu, elle est descendue, les lumières, les ténèbres ont rejeté la lumière. Alors Jean va nous présenter cette perspective-là de Dieu qui est descendu. Si on lit par exemple Marc, ben Marc, juste 16 chapitres, c'est très rapide, c'est concis, on arrive rapidement dans le ministère de Jésus. On présente Jésus comme le serviteur. Marc 10, 45, je cite ça de mémoire, là, il est venu non pour être servi, mais pour servir. Il faut que je te dise comme il faut quand même. Là. On présente Marc comme un serviteur. Dans Luc, on présente Jésus comme un serviteur. Dans Luc, on présente Jésus comment? Le Fils de l'homme. C'est Dieu avec nous. Il est là, on l'appelle le Fils de l'homme régulièrement. Dans Luc, on voit ça. Et dans Matthieu, on le voit comment? Le roi. On voit l'accomplissement des prophéties qui s'accomplissent dans la personne de Jésus. Il est le roi. On voit, si on lit Matthieu 1:1, voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. On commence tout de suite avec les deux promesses qui s'accomplissent, avec la promesse d'Abraham, avec une grande multitude qui s'accomplit dans la personne de Jésus, et puis de David aussi, où ce que son trône sera sans fin à travers la personne de Jésus. Dans Matthieu, ben, on voit constamment cette idée-là de royaume des cieux, parce qu'on va parler du royaume, et puis c'est ce qui nous est présenté. Alors, on a des perspectives différentes de qui Jésus est, et dans Jean, pour terminer avec ça, Jean-Baptiste, qui était un homme qui connaissait bien Jésus, qui, je crois qu'on devrait rechercher l'exemple de Jean-Baptiste à nos vies, de voir Jésus, qu'il grandisse, que je diminue. Jean, il a perdu des disciples à cause de Jésus. Étais-tu content de ça? Oui, il était content de ça. Que je les perde tous mes disciples, qu'ils grandissent puis que je diminue. Et Jean, à un moment donné, il voit Jésus passer. Jean 1, verset 29. Vous l'avez? Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit quoi? Voici l'agneau de Dieu, exactement, qui ôte le péché du monde. Jean, il voit Jésus qui s'en vient, puis il l'appelle comment? L'agneau de Dieu. Et là, c'est lourd de sens. Puis je vais juste ouvrir un petit peu la porte, puis je pense qu'on va prendre le temps de regarder ça plus la prochaine fois. Verset 35, l'autre lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit: voilà l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu qui est là. Un titre que Jésus avait, qui révèle beaucoup de ce qu'il est, de son amour, de ce qu'il veut faire, de ce qu'il accomplit dans toute cette ancienne alliance-là qui a été donnée, de l'ombre des choses qui devaient venir, que Jésus lui-même vient remplir avec cette idée-là de l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Pourquoi Jésus est appelé l'agneau de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? On va arrêter là pour l'instant. et je suis convaincu que vous connaissez déjà beaucoup de ces réponses-là. Puis, ouais, dimanche prochain, c'est René. Hein? Mais non, ça sera la suite éventuellement. Mais l'agneau de Dieu, que nos pensées continuent de tourner avec ces noms-là, ces titres-là qui sont donnés à Jésus, qu'on est particulièrement dans ce temps-là où ce qu'on se rappelle de l'incarnation. Je pense qu'on doit se rappeler de l'incarnation constamment, là, évidemment, de Jésus. Mais particulièrement, qu'on dirige nos pensées sur ce qu'il est, sur ce qu'il voulait faire, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il fera aussi, de ce qui s'en vient. Je termine par un mot de prière. Seigneur, on vient devant toi encore pour te louer, pour t'adorer. Tu es un grand Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es notre Dieu, tu es notre Papa. Seigneur, on veut te louer parce que tous ces noms-là révèlent qui tu es. Révèle ce que tu veux faire pour nous, ce que tu fais, ce que tu feras aussi. On est vraiment reconnaissant. Sans toi, on est perdu. Sans toi, on ne peut rien faire. Et on veut te dire merci pour ton amour. Merci parce que tu nous aimes. En même temps, Dieu, on veut vivre en conformité avec ce que tu t'attends de nos vies, de ce que tu désires de nos vies. On veut marcher d'une façon qui te plaise. C'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te prie. Amen.